finance et fiscalité.
Je vous demande de vous arrêter.
Mais voici Alex Leblanc.
Oh, que j'ai l'impression qu'on va avoir du fun aujourd'hui. Alex Leblanc, planificateur financier, salut man!
Salut vous autres!
Ben, ça va?
Ça roule.
Ça roule? Ça a pas l'air d'arrêter ben. La pluie, le mardi, ça te dérange pas, toi?
D'habitude, je viens en bike ici, puis là, j'ai pris... Ben, la réponse honnête, c'est que ma blonde est venue me porter, mais...
Ça fait mal!
Ah oh, ouais.
Ouais. Ouais, demander un lift à sa blonde.
T'es tellement viril avec ton sac à dos côté passager. C'est une portée.
Hey, on va se pencher sur une question intéressante aujourd'hui, puis c'est le genre de débat où les gens pognent les nerfs constamment, alors que c'est même pas de notre côté de la frontière. Mais quand la politique et l'économie se mélangent ensemble, c'est facile de dire oh, hey, quand l'économie va bien, c'est grâce à mon candidat.
Ben hein? Oui.
Et quand l'économie va mal, ben c'est le candidat de l'autre. Tu sais, c'est de même, ça marche.
C'est aussi simple que ça.
On va parler des élections aux États-Unis et des marchés boursiers et s'il y a des relations à faire entre les deux, parce que, justement, c'est un sujet qui a été abordé récemment alors que Donald Trump et Kamala Harris vont se disputer la Maison-Blanche.
Oui, puis là, avant-hier, tu sais, on est en plein milieu de la Convention démocrate.
Ouais.
Fait que ça parle beaucoup de ce sujet-là. Moi, c'est deux sujets que j'aime bien, naturellement, ce que je fais, planification financière et politique américaine.
Ouais.
Puis je trouve ça vraiment drôle de voir, d'un côté, t'as les gens qui détestent Kamala Harris, qui disent, ben là, si elle rentre, ça va être le communisme aux États-Unis puis les marchés vont s'écrouler.
C'est un mot qui revient beaucoup, hein?
Ah, c'est un mot à mode.
C'est du communisme.
Puis le contraire, carrément à l'autre extrême, c'est de dire, ben là, si Donald Trump rentre, ben là, les marchés vont s'effondrer puis on n'aura plus de pays, puis...
Bon, si je crois les deux versions, on est un peu fourrés.
On est vraiment dans la merde.
Dis-moi que c'est plus subtil que ça.
C'est plus subtil que ça, puis on a des centaines d'années d'historique de marché boursier pour nous guider un peu à travers tout ça.
Est-ce qu'il y a un lien à faire entre l'élection d'un nouveau président puis des fluctuations sur le marché boursier, en partant?
La réponse à ça, c'est oui. Par contre, il faut toujours distinguer, puis ça, c'est bien important aussi quand on jase de ça at large, là, dans la vie de tous les jours, là, c'est bien important de distinguer la politique et les politiques. La politique, c'est tel candidat va promener l'autre, puis tel candidat a dit X, Y, Z, puis ça fait un gros headline. Ça, c'est la politique.
Ouais.
C'est l'aspect un peu plus showbiz.
C'est ce qu'on n'aime pas de la politique, finalement.
Ça, dans la vraie vie, ça change pas grand-chose.
Okay.
Les marchés sont très peu impactés par ça. Ça fait des beaux titres puis des beaux headlines. Là.
Des belles chicanes sur les réseaux sociaux.
Oui, mais ça change pas grand-chose. Par contre, les politiques... Bien, si on s'entend, ça fait moins jaser, mais c'est OK, tel candidat, il propose une coupe de taxes, tel candidat, il propose des tarifs. Bien, ça, généralement, ça va venir faire fluctuer les marchés un peu. Fait qu'en année électorale aux États-Unis, là, historiquement, les marchés ont toujours été un petit peu moins bons. Pas une grosse affaire, là, mais en moyenne, c'est 1 % de moins.
Est-ce que c'est l'incertitude qui amène ça?
Très ça.
Ouais.
L'incertitude, bien, même s'il y a des candidats qui promettent X, Y, Z, ils vont-tu vraiment le faire? Mais là, s'il y a un changement, là, les marchés, ils aiment la certitude.
Puis tu peux pas savoir de quel bord ils vont s'en aller. Fait lequel va gagner, donc quelle politique au pluriel va se retrouver à être mise en place au courant des prochains mois? Fait qu'ils naviguent en eau trouble. Là.
Mettons, une politique qui fait beaucoup, qui fait peur au marché, c'est Donald Trump. Il y a une de ses politiques qui est, lui, il veut, on s'entend le dire puis le faire, c'est deux choses, mais il veut mettre fin à la taxation des individus, en grosse partie, pour remplacer ça par des tarifs.
Ouais.
Fait que là, l'État se prise de beaucoup de revenus. Par contre, les gens ont plus d'argent dans les poches, mais ils payent toutes leurs affaires plus cher. Fait que là, ça c'est un gros changement. Là. Fait que là, les marchés n'aiment pas ça, une proposition comme ça. Parce que c'est pas une question de « es-tu bonne ou est mauvaise? »
C'est que ça bouge trop vite. Hein.
Ça change.
Tu dis qu'on a 100 ans d'histoire pour regarder s'il y a des tendances. Bon, ben là, réglons le dossier une fois pour toutes. Là. C'est lesquels les meilleurs pour l'économie? Là? C'est-tu les républicains ou les démocrates? Là?
Ben, ça, c'est vraiment drôle parce que je pensais que... J'avais déjà vu une stat de même, puis je sais pas sûr qu'il était vrai. Puis là, je suis allé vraiment la calculer moi-même avec les historiques de marché boursier.
OK.
Tu sais, un président, c'est élu en novembre, mais ça commence son terme en janvier.
Ouais.
Fait que, généralement, c'est 20 janvier, mettons, 2021 pour Biden. Puis même si l'élection est en 2024, ben, il finit en 2025. Fait que quand tu prends tranche de 4 ans ou de 8 ans pour les présidents qui ont été réélus, là, tu vois, depuis entre 1926 et 2023, il y a eu 23 élections aux États-Unis.
Okay.
Sur cette période-là, tu as eu 47 ans de règne républicain, 51 ans de règne démocrate.
C'est quand même drôlement bien réparti au total tout.
C'est à peu près un split parfait.
C'est cyclique.
Fait que la stat est bonne, c'est représentative. Le S&P 500, fait que l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines, quand c'est des républicains qui étaient là, il a fait en moyenne 9 % par année.
OK.
Quand c'est des démocrates qui étaient là, il a fait en moyenne 15 % par année. Fait qu'on a un 6
%. Ah, fait que t'es un maudit gauchiste!
T'es un communiste.
Ah, mais tu sais, encore là, je t'écoute puis je me dis, crème, mais ce qui influence la bourse, c'est au-delà de ça. T'sais, tu vas avoir des situations géopolitiques qui vont avoir des incidences. Mais c'est vrai que les États-Unis sont suffisamment gros pour se dire, mais peut-être que les politiques mises en place ont effectivement un impact direct qu'on peut voir par ça.
Oui, puis il y a quelque chose par contre, puis ça, je voulais y venir plus tard, là, mais il y a un exemple que j'aime, c'est mon exemple préféré, là, parce qu'il illustre que tout ça, c'est du vent. À savoir, ça, c'est de la faute d'un président ou un autre.
C'est ça, c'est dur à attribuer en partant. Là.
Bill Clinton, là, c'est le président au niveau économique, là, quand tu regardes son terme. Fait que de lui, fait que de 93 à 2001, c'est le, statistiquement, là, quand tu regardes ces années-là, c'est le meilleur président de l'histoire moderne.
C'est-tu un président qui a été extraordinaire pour l'économie ou c'est l'économie qui a été extraordinaire pour un président?
Ben, regardez, attends, c'est que lui, pendant, c'est le meilleur. Là, 15 % le stock market, le S&P 500 en fait en moyenne 15 % pendant ses 8 années de présidence. C'est le dernier président à avoir droppé sur son bureau un budget équilibré.
Y a-tu un lien entre les deux?
C'est pas arrivé... Pas vraiment.
Pas vraiment.
Mais c'est juste pour illustrer que Clinton avait vraiment une bonne économie. Mm. Par contre, rappelez-vous, il y a à peu près un an, on a fait la chronique sur la crise financière de 2008.
Oui.
Le principal coupable de cette crise-là, c'est les banques qui ont pris beaucoup de risques, ils ont fait des niaiseries. Pourquoi ils ont fait ces niaiseries-là? Parce que dans les années 90, le gouvernement fédéral a déréglementé massivement l'industrie des banques. Fait que pendant que Clinton était là dans les années 90, ben lui, ça allait bien. Mais la bulle,
plus tard.
La bulle a grossi. Oh. Fait que tu sais, l'éclatement de 2008, le principal coupable de ça, c'est Bill Clinton. Fait que lui, il a l'air d'un king parce que pendant ses 8 ans, c'était écœurant. Par contre, il a clairement été la cause d'un des plus grands drames financiers de l'histoire de la planète.
Au-delà de Bill Clinton, qui a été celui qui a eu le meilleur rendement, as-tu été capable de trouver ça a été qui les meilleurs présidents ou ceux qui ont le mieux profité de l'économie? Puis, à l'autre bout, c'est qui les pires?
Bien, si on se fie à ça, là, Clinton demeure le meilleur. Fait que tu vois, depuis dans l'ère moderne, là, j'ai même beau de sortir, Madison, là, mm-hmm. ça n'a pas rapport. Mais tu sais, mettons, depuis la grande crise financière de 1929, là, Clinton est le meilleur à 15 %.
Hey, là, tu viens de mentionner la crise financière de 1929. Je ne sais pas qui était président, mais j'imagine que c'est lui le pire.
C'est lui le pire. C'est Herbert Hoover, le pauvre Herbert, qui, lui, en moyenne, là, c'est pas, mettons, une année, ça a perdu 31, mais après ça, c'était pas pire. En moyenne, pendant sa présidence, ça a perdu 31 %.
C'était pas une belle période.
Non, mettons qu'il n'en met pas super bien. Puis d'ailleurs, en 2008, Bush, ça hantait, c'était ça. C'était d'être le nouveau Herbert Hoover.
Ah ouais.
Il est pas loin en dessous, là. Pas en termes de pourcentage, mais tu sais, c'est en termes de stock market, là, c'est le deuxième pire président de l'ère moderne. Lui,
Bush,
il a perdu
okay.
6 % en moyenne pendant sa présidence. Puis il était là 8 ans, là. Fait que c'est une longue période.
Mais c'est-tu juste un concours de circonstances parce que l'économie, ça évolue, puis des fois, c'est complètement indépendant de qui est à la Maison-Blanche? On vient de mentionner deux exemples. Tu sais, la crise des banques puis le crash boursier, c'est pas de la faute, à moins que tu me dises le contraire, au gars qui est assis à la Maison-Blanche.
Ben moi, je trouve ça vraiment particulier parce que les États-Unis, c'est la seule place où on fait ça. On prend les performances boursières, puis on prend le président, puis on dit ces deux-là sont liés.
OK, on fait une corrélation.
On fait une corrélation directe. Alors que, tu sais, dans notre discours, mettons, on prend juste le Québec, là. On a un indice boursier, nous autres, l'indice Québec 30, les 30 plus grosses entreprises.
Ouais.
Il y a personne qui dit, ben là, le go, ben là, ça n'a pas rapport. Puis même chose pour le TSX, qui est l'indice canadien. Il n'y a personne ou à peu près qui dit « Mais là, pendant Harper, le TSX était meilleur. » Je ne sais même pas. Ça n'a pas d'impact, ultimement. Il y a un impact, tu sais, le président ou le premier ministre, ou tu sais, le dirigeant, la dirigeante, ultimement, ce qu'il fait, lui, c'est il crée le carré de sable.
Okay.
Fait que c'est l'environnement réglementaire, l'environnement de taxation, de tout ce qui entoure ça, c'est le gouvernement qui décide. Par contre, C'est pas George W. Bush qui a créé l'iPhone, même s'il était présent en 2007.
Ça avait été un bon timing, ouais.
Peut-être qu'il a créé de façon directe ou indirecte un environnement propice à la création puis à l'investissement.
Mettons, si on prend l'exemple de la pandémie. T'sais, mine de rien, ça a eu un impact sur l'économie à travers le monde parce qu'il y a eu des crashs dans certains domaines, puis il y a d'autres domaines qui ont connu des croissances fulgurantes. Fait qu'à ce moment-là, comme président, tu t'arranges pour ajuster tes politiques puis ton environnement pour tenter de compenser un impact comme celui-là, j'imagine?
Oui, tu peux, mais même là, quand tu regardes au niveau des chiffres, bien, c'est là où, quand il y a des événements aussi aberrants que ça. Nous autres, mettons, quand on regarde les portefeuilles, là, on l'explique aux clients. Mettons, l'année 2022, là, c'est une donnée aberrante. T'sais, quand tu regardes un nuage de points là, des rendements, 2022 est out there. Là. T'sais, le rejet à cafétéria, là, ouais. Personne ne veut manger avec, là, c'est 2022. Par contre, je ne peux pas regarder un fonds et dire, ben, gars, je vais enlever 2022.
T'as pas le droit parce qu'il y a eu un impact.
C'est arrivé pour de vrai. Fait que tu sais, quand il y a des événements qui sont vraiment des outliers de même, t'as comme pas le choix de les considérer, mais je peux pas prendre la présidente George Bush puis prendre juste l'année 2007-2008 puis dire, ben, lui, George Bush, là, c'est le plus malchanceux de tous les présidents.
Il y a eu beaucoup d'affaires pendant son mandat, là.
Ben, au niveau... T'as eu en septembre, naturellement.
En partant, là.
Pas pire bad luck, là. Mais...
ça change un mandat, comme on dit, ouais.
C'est ça. Mais au niveau économique, là, lui est arrivé, janvier 2001, j'ai un paquet de projets, puis j'étais écœurant, puis je suis hot. Boum, éclatement de la bulle techno. Gars, il a même pas défait de ses boîtes.
Gars, les projets sont restés dans les boîtes.
Ouais, ouais, ça avait commencé un petit peu avant, mais ouais. il est carrément là-dedans. Fait, il est comme, OK, là, je vais me remettre de ça. Il arrive en fin de mandat, 2008. OK, c'est bon, j'ai du momentum, là. Ça va bien, mon affaire. Plus grosse crise financière depuis... Fait que lui, il a commencé avec un désastre, il a fini avec un désastre. Les deux qui n'étaient pas de sa faute nécessairement. Ouais. Mais tu regardes les stats, puis boum, c'est le Herbert Hoover Jr.
Je regarde ton top 3 des présidents les plus performants. C'est Bill Clinton, tu nous en as parlé. Les deux autres, c'est Donald Trump et Barack Obama avec des rendements annuels qui se ressemblent. C'est quoi les liens que tu fais entre ces trois présidences-là? Il y en a-tu à faire?
En termes économiques, tu peux tracer des liens, mettons, entre Clinton et Obama parce qu'il y avait des politiques...
Des mesures qui se ressemblaient.
Il n'y a pas beaucoup de liens à tracer, naturellement, avec Trump, qui, on parlait de données aberrantes, là. Mm-hmm. Assurément qu'en termes de profil là, de politicien, là, il est assez unique de son bord, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de politiques au niveau... Quand tu regardes vraiment, on revient à ce qu'on disait tantôt, là, la différence entre la politique et les politiques. Quand tu regardes juste les politiques, là, tu laisses faire les tweets, puis les discours, puis les... Quand tu regardes juste les politiques, là, il y a beaucoup des politiques de Trump et d'Obama qui se ressemblaient. Ça ne veut pas dire que c'était des politiciens identiques.
Les messagers sont à des millions de kilomètres de différence, ben oui. Mais tu me dis que les politiques pouvaient se ressembler.
D'un point de vue économique. Tout ce qui est la santé, puis on s'entend immigration, puis ça, c'était deux mondes totalement. Là.
Oui.
Mais il y a clairement une constance économique dans la manière de faire les choses aux États-Unis entre, mettons, 93, quand Bill Clinton est rentré, puis aujourd'hui.
À la lumière des chiffres que tu as vérifiés des 100 dernières années, mettons, qu'est-ce qui va arriver en novembre? Là? C'est lequel le plus dangereux, puis qu'est-ce qui va arriver sur les marchés boursiers?
Bien, c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que c'est drôle, parce que...
En novembre ou en janvier, en fait?
Bien, le crash, là, ou
l'impact,
le choc,
le
c'est toujours au moment où on apprend la nouvelle.
OK.
Tu sais... Tu capotes pas le jour où tu déménages. Tu capotes quand ta blonde te laisse. Il y a comme une période de transition.
C'est
un bon,
ouais.
C'est un peu ça, patente. Mm-hmm. Ta blonde te laisse en novembre, puis tu déménages en janvier. Fait que là, le président est élu en novembre, il est élu en janvier. Généralement, là, que ce soit Trump ou Harris, la grande majorité du temps, là, la journée de l'élection, puis les quelques journées après, le marché recule. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas l'incertitude. Que ce soit, peu importe le changement, ça vient avec une incertitude.
Quand un président est reconduit pour un autre mandat, est-ce que les marchés ont une période d'incertitude quand
même? Les marchés aiment ça. Les marchés aiment ça. Peu importe le président. Tu regardes les rares moments où on a eu vraiment des
deux mandats.
Des augmentations là, dans les journées de l'élection. C'est 96, Clinton qui venait d'être élu. 2004, Bush Jr. qui venait d'être élu.
Je trouve ça super intéressant.
Quand il y a un nouveau président, ce qui va être le cas naturellement, même si techniquement c'est la même, mettons qu'Harris Gang, c'est la même administration,
mais
c'est un nouveau poster girl. les marchés n'aiment pas ça. Fait que ça va reculer. Trump, par contre, c'était particulier. Au début, mettons, dans les premières heures, quand les marchés ont ouvert, ça s'enlignait pas, c'était pas beau. Là. Mm. Par contre, la journée après, là, ça a monté de 2,2%.
Okay.
Un mois après, c'était 6,4%. Mais c'est là où tu vois que les chiffres ne veulent rien dire.
Non, mais c'est parce que le marché boursier a fait, OK, 24 heures, il n'a pas pesé sur le bouton rouge, on est peut-être correct pour une semaine.
Ben non, mais c'est drôle parce que là, c'est les chiffres suite à son élection.
Mm-hmm.
Mais il n'est pas président encore. Là.
Ouais.
Fait que ça va dans le coffre à outils d'Obama, ces chiffres-là. Fait que, c'est parce que c'était encore lui qui était président. Fait que la logique, là, puis si on se fait à l'histoire, c'est il y a un changement de président. Fait que naturellement, les marchés vont reculer. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de quoi en conséquence.
C'est-tu quelque chose qui dure? Je pense que tu as un peu répondu à la question. C'est quoi, ça dure quoi, une couple de jours?
Ben, tu vois, quand, moi, j'ai les chiffres « one day after » jusqu'à « one year after ». Tu regardes, mettons, 84, 88 jusqu'à 2020, là, il y a une seule instance où un an après l'élection, les marchés ont été en recul, c'est 2000. Puis un an après, tu serais... Tu sais, un an après, d'après moi, tu étais jusqu'à quelques mois après 11 septembre, là, fait que mm-hmm. puis dans la bulle techno. Là, fait que c'est un événement aberrant. Là, mais normalement, un an, il y a toujours un petit choc après l'élection, mais un an après, c'est comme si de rien n'était. Là.
Fait que si j'ai bien compris, Alex, en octobre, je rentre pas dans ton bureau en disant « Hey, l'élection s'en vient, change tous mes placements. »
Non.
OK.
Parce que peu importe ce qui se passe sur le court terme, ça change rien à ton objectif,
ouais.
Ça change rien à ta stratégie. Si on est toujours en train de prendre des décisions pour des considérations court terme, on est condamné à tirer de la patte. Là. Parce que quand tu regardes, là, mettons, le S&P 500, on parle depuis tantôt du S&P 500,
mm-hmm.
les 500 plus grosses entreprises américaines, en moyenne, depuis 2001 à peu près, là, ou 2002, là, quand tu regardes, mettons, après l'éclatement de la bulle techno, parce que sinon le chiffre ne marche pas, là, ça fait à peu près 9 à 10 % par année. Cependant, l'investisseur moyen qui, lui, met son argent là-dedans, il ne fait pas 9, il fait 3. Pourquoi il fait 3? Parce que lui, justement, il achète, il vend. Mm-hmm. « Hey, Trump, ah, je vends. Hey, Irish, je vends. » Il est tout le temps à mauvaise place ou au mauvais moment. Fait qu'il met son cash dans un actif qui fait 10, puis lui, il fait 3. Pourquoi? Parce qu'il regarde mon graphique avec plein de rouges, puis il capote.
Fait que pendant que ça se traite de communiste d'un bord puis de nazi de l'autre, ben l'économie fait son petit bonhomme de chemin entre les deux.
Exactement. Parce que les fondamentaux
c'est bon.
Se foutent un peu de la une du New York Post.
Alex Leblond, planificateur financier, merci beaucoup. Super intéressant. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Hein? 418-971-1021. On fait une courte pause. On revient. C'est Gravel dans le retour à Boulevard.